Aujourd'hui, on continue notre parcours des principes pour interpréter la parole. Et donc, j'appelais le message aujourd'hui l'unité dans les Écritures. L'unité dans les Écritures. Donc, nous, on est des chrétiens bibliques. Et étant bibliques, nous désirons respecter la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous nous efforçons de bien interpréter la parole. On ne se laisse pas faire n'importe quoi avec la parole. D'ailleurs, Paul, l'apôtre, a dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 et verset 17, « Nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Donc, il a utilisé cette phrase, « Nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. » Par cela, il veut dire que le chrétien ne mystifie pas la parole de Dieu, il ne corrompt pas la signification, il ne tord pas le sens. Il fait un effort pour rester dans les lignes de ce que vraiment veut dire la parole de Dieu. Et on voit cette attitude, ce genre de respect, dans quelques versets que j'ai sélectionnés dans le psaume 119 de David. Le psaume 119. Je vais lire 103, versets 103, 105, 107, 111 et 112. On ne va pas tout lire, mais donc psaume 119, verset 103. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Donc, pour dire qu'il apprécie la parole de Dieu. Ça lui fait du bien. Le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Au verset 107. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Et puis encore au verset 111. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. Là, c'est un respect pour la parole. David aimait la parole de Dieu et nous devons aimer la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, je veux parler de cette unité du message biblique. Les autres fois, déjà, j'ai parlé ou j'ai exposé les principes de base pour interpréter la parole. Aussi, j'ai montré la dernière fois certaines distinctions qui sont à respecter dans la parole. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'unité des Écritures. Donc, le message de la Bible est cohérent. Et par cela, je veux dire que ces idées s'accordent entre elles. Le message dans la Bible est harmonieux. C'est comme un artiste qui peut peindre un grand tableau avec plusieurs sujets et de nombreuses couleurs, tout en gardant un thème uni. Il me semble que n'importe quel lecteur reconnaîtra l'unité des filons tissés à travers ce livre, hein, la Bible. Un livre, selon votre édition, de plus de 1000 pages, composé de 66 volumes, écrit à travers 1500 ans, dans deux langues principalement. Il y a une toute petite partie qui est en arménien. Arméen, merci. Et par une quarantaine de personnes de tout niveau de la société. Comment nous expliquons cette unité du message à travers un tel, comment dire, un vaste nombre de personnes et de siècles et tout ça? Eh bien, c'est parce que l'auteur est unique. L'auteur est lui-même éternel. D'ailleurs, Plein de fois, la Bible dit que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Elle se proclame à maintes fois être la parole de Dieu, l'expression de Dieu, une révélation de la part de Dieu. Les Écritures sont littéralement la parole prophétique. Et par cette expression « parole prophétique », nous envisageons la source de la révélation, c'est-à-dire Dieu. Dieu éternel, omniprésent et omniscient. Il connaît tout, il est partout, il est en tout temps, il est éternel. Et c'est comme cela qu'il peut nous dire les choses qui sont pour la fin des temps, même depuis le début des temps. Et Dieu, il se révèle par sa parole à l'homme. Pourquoi? Afin de nous éclairer dans notre chemin quotidien. Comme on a lu tout à l'heure, David a dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dieu révèle, il éclaire pour nous comment il veut que nous vivions. Dans le sens le plus large, la totalité de la révélation est prophétique. C'est dans ce sens le plus large, que ceux et celles qui expliquent la parole de Dieu aux autres sont appelés des prophètes ou des prophétesses. Comme nous lisons dans Actes chapitre 21, le verset 9, que Philippe l'évangéliste, donc qui a évangélisé l'Éthiopienne, il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Elles avaient un ministère envers les autres dames pour expliquer la parole. C'est aussi pour cela que nous ne voulons pas mystifier, manipuler ou tordre la parole. Au contraire, chacun d'entre nous devrait pouvoir clairement expliquer la parole à ceux qui cherchent Dieu. Le message biblique est lié au plan de Dieu à travers les siècles. De ce fait, la révélation a des aspects passés, présent et futur. Elle relève l'histoire, donc elle parle des choses il y a des milliers d'années, pour notre compréhension du passé, dans l'optique de nous donner de l'espoir dans le présent. Romains chapitre 15, verset 4 dit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance, espérance dans le présent. » De même, la parole révèle le futur pour notre compréhension, pour nous donner de l'espoir concernant l'avenir, mais aussi pour que cette assurance concernant l'avenir nous donne de l'espoir dans le présent. Jean a dit, concernant les révélations dans l'Apocalypse, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Donc, c'est plein de choses pour l'avenir. Certaines choses à l'époque de Jean, mais c'était plein de choses pour l'avenir. Mais Jean a dit, « Heureux ceux qui lisent. » Ça, c'est nous, dans le présent. Nous lisons l'Apocalypse et d'autres parties de la Bible dans le présent. Et ça nous rend heureux quand on entend et qu'on garde la parole de Dieu. Et enfin, dans le présent, nous voudrions comprendre les Écritures pour les appliquer à notre vie actuelle afin de plaire à Dieu et afin de glorifier Dieu. Et c'est pour cela que Jacques, dans Jacques chapitre 1, verset 22, il dit, « Mettez en pratique la parole. » C'est bien de le connaître, mais il est mieux de le mettre en pratique. Okay? Dans le contexte de cette phrase, « Mettez en pratique la parole » dans Jacques 1, donc on va lire verset 21 au 25, Jacques chapitre 1, versets 21 et 25. Donc, je vous ai lu une partie du verset 22. Donc, on lit verset 21. « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter, donc à l'écouter seulement, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc il oublie qu'il a fallu coiffer. Il a oublié tout de suite. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il parle du présent. Dieu veut qu'on vit pour lui dans le présent. Donc, le message de la Bible est uni, car il est, donc le message, il est la parole de Dieu qui a pour objectif d'éclairer l'humanité. Maintenant, je voudrais parler aussi de notre partie de la Bible, c'est la partie prophétique, on va dire futuriste, qui aussi fait partie de l'unité des Écritures. La parole du Dieu éternel annonce beaucoup de choses d'avance. Quand les gens entendent le mot prophétie, ils pensent normalement à ce sens futuriste ou prédictif. Une prophétie futuriste est, en quelque sorte, l'histoire écrite d'avance par Dieu qui est déjà dans l'avenir. C'est pour ça que Dieu peut prophétiser en disant, voilà ce qui va arriver. Ce n'est pas parce qu'il se projette là-bas, mais c'est qu'il est déjà là-bas. Il est déjà à l'avenir. Il est déjà à la fin du monde. Parce qu'il est éternel. Il est au-delà de notre temps. Et nous vivons de jour au jour, minute à minute. Et Dieu, il est déjà partout, en tout temps, quoi que soit le temps. Il n'est pas chronologique comme nous. Dans Ésaïe chapitre 46, versets 9 et 10, Dieu déclare « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. » Bon, comment va-t-on se souvenir de ça? Parce que c'est écrit ici. OK? « Car je suis Dieu, et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts, donc quelque part mes lois, ce que je détermine, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est comme ça que Dieu a pu dire tout de suite après que Adam et Ève ont péché, il a dit tout de suite, eh bien, j'envoie celui qui va écraser la tête du serpent. Depuis le début. Parce que Dieu, il connaît tout. Il est déjà à la fin. Ainsi, ces prédictions ou prophéties futuristes s'accomplissent après la date de leur rédaction. Des fois, c'est tellement exact que les non-croyants disent, ben, ça devait être écrit après. Parce que comment on peut savoir l'avenir? Ben, nous ne pouvons pas, mais Dieu peut. Donc, une prophétie est un miracle, parce que c'est une activité de Dieu, pour nous éclairer les choses. Souvent, les prophéties sont écrites des centaines et même parfois des milliers d'années pour être accomplies des milliers d'années plus tard. Okay? Mais restez assurés, une prophétie divine s'accomplira toujours. Car c'est l'Éternel qui a dit et Dieu, il ne se trompe pas. Jamais. Par contre, les faux prophètes sont reconnus par l'inexactitude et le non-accomplissement de leurs fausses prophéties. Donc, voici quelques règles pour bien interpréter la prophétie biblique dans le sens futuriste. Okay? Premièrement, permettez au prophète de s'interpréter lui-même. Donc, par exemple, Joseph a expliqué donc les rêves du pharaon et il a dit voilà, ça veut dire ceci, ça veut dire cela, et etc. Donc, il a tout défini. Daniel a fait la même chose, il a dit à Nebuchadnezzar que bon, voilà ce qui était ton rêve et ou ton songe, et voilà la signification de ton songe. Donc, permettre au prophète de s'interpréter lui-même. Souvent, l'explication est déjà dans le texte. Et puis, de nombreuses prophéties ont déjà eu leur accomplissement. Donc, nous, on lit dans la Bible, et puis il y a une prophétie. Mais on dit, tiens, quand est-ce que ça va arriver? Mais il faut comprendre que plein de choses sont déjà arrivées dans les 4000 années qui sont depuis que les prophéties ont commencé à être écrites. Donc ça s'était arrivé peut-être dans l'Ancien Testament, dans les évangiles, peut-être dans le premier siècle du christianisme. Et comme vous savez bien, il y a encore des choses qui vont arriver dans l'avenir. Donc, nous, on est 2000 ans après Jésus. Okay? Donc il faut considérer la possibilité que telle ou telle prophétie a été déjà accomplie. Mais on ne veut pas oublier que certaines prophéties restent à s'accomplir. Hein? Donc, le problème, c'est que si vous ignorez l'accomplissement d'une prophétie et puis vous dites, tiens, je veux voir que ça se passe dans ma vie, ben, vous allez fausser votre compréhension de la parole. Et donc, ça, ce n'est pas utile. Hein? Quand on fausse l'interprétation de la parole, ce n'est jamais utile. Et puis, on peut aussi comparer les prophéties. Donc, il y a d'autres passages dans la Bible qui peuvent parler de le même sujet, le même thème prophétique. Donc, il est utile de comparer ces prophéties parallèles ou ce qui se ressemble afin de noter les similarités ou même les différences entre les prophéties. Donc, vous voulez noter bien le sens des mots tels que avant, après, pendant, jusqu'à ce que. Ce sont des mots qui se trouvent dans les prophéties. Donc, moi, j'ai choisi un exemple dans Apocalypse chapitre 7 et verset 3. Donc, il y a un autre ange qui va parler. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alors, cette phrase, jusqu'à ce que, donc, ne faites pas de mal jusqu'à ce que, ça signifie qu'il faut attendre. Donc, ce qui arrive, c'est que le chapitre 7 se situe dans le texte après chapitre 6. Mais ça semble par ne fait rien avant que, ou jusqu'à ce que dans la chronologie, le chapitre 7 est avant le chapitre 6. Donc, ces petits détails de chronologie aident grandement dans l'organisation des choses à venir. Et puis, il y a un genre de prophétie spéciale, on appelle la typologie de l'Ancien Testament. Donc, dans cette typologie, donc, Dieu a prévu que certains passages dans les Écritures servent d'illustration prophétique. Ce n'est pas des prophéties en soi, mais ils servent d'une illustration concernant l'avenir. Et surtout les choses qui concernent le Christ, le salut et les choses comme ça. Donc, ce genre d'illustration prophétique s'appelle un type, qui vient d'un mot grec typos, qui veut dire un modèle ou une image, une figure ou moule. Donc, il y a le type et il y a l'antitype. Donc, c'est un peu complexe, mais c'est un peu comme la fabrication d'une pièce d'argent ou de la porcelaine. Parce qu'on allait vécu à Limoges avant, donc on est allé dans le musée, et ils fabriquent le moule, et tout est là, en image miroir, dans le moule. Okay? Après, ils vont verser le liquide porcelaine dans le moule, et puis ça va sortir, et le moule, c'est le type, et puis les assiettes ou les pots, n'importe, vont être l'antitype. Mais le moule est en image miroir de ce que nous allons apprécier. C'est pareil pour les pièces d'argent. Donc, je connais pas trop le vocabulaire, mais il y a un métal, il y a l'original, et puis ils vont presser ça pour que on peut lire les pièces d'argent. Mais le moule, entre guillemets, hein, c'est en image miroir. Et donc c'est ça, cette idée, c'est qu'il y a des illustrations prophétiques dans l'Ancien Testament que la Bible nous dit, va nous dire, voilà ce que ça veut dire. Ça nous illustre, c'est une genre de prophétie illustrative de, et puis la Bible va nous dire cette chose-là. Donc un type est une application faite par la Bible elle-même, construite sur la signification principale d'un texte biblique. Donc les rituels de Moïse sont souvent des types de Christ ou des vérités bibliques. Un type peut être une personne, un événement, une chose, un rituel que Dieu utilise pour illustrer une autre personne, un événement ou une chose dans la suite du temps. Donc je vais donner deux exemples. Au moins un exemple. Donc, on a le texte de Genèse, chapitre 14, verset 18. Vous pouvez le chercher si vous voulez. Le texte de Genèse, chapitre 14, verset 18 à 20, qui concerne Melchizedek. Et ce texte-là est utilisé comme type ou comme moule pour illustrer la nature éternelle du Christ comme antitype ou comme réalité dans Hébreux, chapitre 7. Et aussi, le même texte est utilisé comme antitype pour montrer le sacerdoce perpétuel de Christ dans Psaume 110 et verset 4. Donc, on va lire Genèse chapitre 14, verset 18 à 20. C'est toute l'histoire là. Hein? Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham, par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. On le lit, bon, donc, ben, d'accord. OK. Mais voilà, plus tard, la Bible va utiliser cette information dans un sens spécial. Hébreux chapitre 7, dans les versets 1, 2 et 3, va nous rappeler de ce texte. Je parle du texte, je ne parle pas de l'homme, je parle du texte. Hébreux chapitre 7, versets 1, 2 et 3, nous lisons, « En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout. » Donc voilà, on a rappelé l'histoire, le texte. Il dit, qui est d'abord, donc Melchizedek, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, eh bien, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement, ni fin, commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc le texte le présente comme ça, comme un éternel, comme une image éternelle. Pourquoi? Pour nous montrer que Christ et éternel. Et en psaume 110, on réutilise le même texte. L'éternel, la jurée, il ne s'en repentira pas, point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek. Donc le sacerdoce du Fils de Dieu, en tant que étant crucifié et ressuscité et remonté dans les lieux célestes, être à la droite de Dieu, eh bien, il est notre représentant, il est notre souverain sacrificateur et c'est un sacerdoce éternel, perpétuel. Il est éternel, son sacerdoce est éternel. Donc ça donne le type, donc c'est Melchizedek dans le texte, et l'antitype, c'est Jésus-Christ dans le sens que la Bible vient de nous le dire. Donc, pour donner quelques principes, les types ne doivent jamais être la preuve d'une doctrine. Donc, on n'a pas besoin de nous montrer que Jésus est éternel par ce texte. On a tout cet enseignement ailleurs et on va l'illustrer par cette idée d'une typologie, de la typologie. Le seul but de la typologie, c'est d'illustrer une doctrine qui existe déjà. Une autre chose, c'est que il n'est pas nécessaire que chaque détail d'un type corresponde à quelque chose dans l'antitype. De même que chaque détail d'une parabole ne correspond pas à quelque chose dans l'enseignement de la parabole. Forcer les significations étrangères que Dieu n'a pas prévues s'avérerait à rien de bon. Okay? Et c'est pareil pour les paraboles. Okay? On veut savoir ce que Dieu a mis là, mais nous ne voulons pas imposer nos idées sur le texte biblique. Et dans ce sens-là, je vais dire, contentez-vous des types reconnus dans la Bible au lieu de se livrer à des interprétations fantaisistes. Okay? Parce que ça arrive malheureusement. Donc, un petit résumé. Le message de la Bible est uni et harmonieux. Ce que nous attendrons d'un auteur éternel, omniprésent, omniscient, qui ne se trompe jamais et ne se contredit jamais. La Bible est entièrement prophétique dans le sens le plus large, étant l'expression de Dieu à l'humanité. Et dans la Bible se trouvent beaucoup de prophéties futuristes, donc des prédictions. Okay? De nombreuses prophéties sont déjà accomplies, d'autres restent à s'accomplir. Les prophéties, donc, une partie de l'objectif, pourquoi Dieu donne les prophéties, c'est pour augmenter notre confiance en Dieu. Et puis, j'ai parlé de la typologie, qui est un genre d'illustration prophétique que Dieu utilise pour lier l'Ancien et le Nouveau Testament. Okay? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un imprimé là sur la typologie. Ce n'est pas tout l'article qui était dans le dictionnaire biblique. J'ai trouvé qu'il était un peu fantaisiste. Donc j'ai dit, bon, je vais prendre cette partie-là et je l'ai mis là. Alors, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide dans votre interprétation de la parole prophétique.